Bonjour! Bonjour, ma princesse!
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Sarah Connor?
Non. Je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet!
Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny!
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon!
Les humains ne sont pas mes amis, je les hais!
Je suis un humain. Toi aussi.
Tais-toi! Je suis une louve comme ma mère!
Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission de Ciné Primitif. Salut avec Bobo et Dahu.
Bonsoir, bonsoir.
Ça va, la forme?
Toujours.
Ah oui, impeccable.
Comme d'habitude, on se retrouve autour d'un nouveau thème. Et cette fois, le thème est animaux. Un thème que j'ai choisi. Parce qu'on aime les animaux dans Ciné Primitif.
Bien sûr.
Oui, surtout les pandas.
Surtout les pandas, là. Pour ça, il faut écouter les émissions précédentes. Et ben voilà, on va vous présenter 6 films autour de ce thème et leur bande-son. Et je vous propose que j'entame cette émission avec le premier film. C'est L'Ours, sorti en 1988. Pour une fois, on a un réalisateur français qui est Jean-Jacques Hano, également scénariste et producteur. Il est connu pour ses films immersifs et spectaculaires. Le Nom de la Rose, L'Empire du Soleil, Deux Frères, 7 ans au Tibet, Stalingrad, etc. À la distribution, on a Yuk, le jeune ours orphelin, Bart, l'ours solitaire. Et il y a quelques humains aussi qui apparaissent, mais uniquement comme personnages secondaires interprétant des chasseurs. Il y a Checky Cario, qui a joué dans Doberman.
Ah ouais, ça je le présenterai ce film.
Et qui a joué aussi un projectionniste dans La Cité de la Peur.
Oui, tout à fait.
Bien sûr. Après, il y a Jack Wallace. J'ai pas cité ses films, mais il y en a d'autres aussi.
Checky Cario est dans le Baiser Mortel du Dragon Rouge aussi.
Ah ok, du dragon tout court,
je... dragon.
Ouais.
Du dragon, c'est pas
dragon rouge, c'est un autre film. Mais bon, c'est bien. C'est...
non, mais le titre est déjà.
On en parlera dans une autre émission.
Le titre est déjà conservé.
Quoi de mieux pour cette émission que commencer par un ours? Le synopsis. Dans les montagnes sauvages d'Amérique du Nord, un jeune ourson orphelin doit apprendre à survivre après la mort de sa mère. Écrasé par un rocher, c'est triste. Il rencontre un énorme ours solitaire, Bart, avec lequel il développe une relation mêlant compétition et complicité. Le film raconte la survie, l'instinct et le lien entre générations animales avec une approche quasi documentaire. Alors pas dans le réalisme, mais dans la façon dont c'est filmé, etc.
Ah oui, tu prends le temps, t'as des beaux paysages.
Ouais, c'est ça.
Et les ours sont pas joués par des humains, donc...
Non. Ou alors c'est bien fait. Non,
c'est pas non plus des animatroniques ou... voilà, non, ce sont de vrais animaux.
Non, c'est des ours qui ont été entraînés pendant plus de 2 ans pour le tournage.
Après moi, ce film-là, je pensais de pas l'avoir vu, mais en fait, je l'ai vu quand j'étais tout jeune.
À l'école,
et... non, avec mon père.
Ok, donc.
Mais c'est un film pédagogique.
Ouais.
Après prison. Ouais, quand j'avais 6 ans. Ouais, c'est ce que je disais, c'est un film pédagogique, tu vois. À 6-7 ans, tu regardes L'Ours, tu regardes La Guerre du Feu, voilà.
Oui, bah le même réalisateur.
Ouais. Ah, puis ça n'a pas vieilli, du moins le film en tout cas.
Mais non, c'est super.
Tu regardes très bien.
Bah, maintenant, il y a peut-être un truc qui me dérange un peu, c'est d'utiliser des animaux, enfin dresser des animaux pour des films.
Oh, je sais pas. Non, je pense pas.
Des animaux sauvages. Ok, bah, je suis le seul à penser ça, mais il y en a peut-être d'autres qui
non,
nous écoutent.
Ça...
Qui
alors, ça me dérange pas.
Ça, déjà, faut le recontextualiser. C'est dans les années 80.
88,
donc, c'est pas la même histoire. Les ours Kodiak. Et c'est au Canada que c'est tourné, je crois. Je crois que c'est encore en Colombie-Britannique au Canada.
Je sais pas exactement où.
Après, faut remettre dans le contexte de l'époque du dressage animaux.
Après,
je sais pas.
Dresser un animal,
ça veut pas dire le maltraiter.
C'est exactement.
Ouais, non, mais je suis d'accord.
L'ours,
je suis le seul à avoir un problème. Je suis un peu hippie.
Non, je dis pas ça.
Peut-être un peu trop.
Ouais. Bon, en tout cas, le film est bien quand même. Après, il y a un truc que j'apprécie dans ce film, c'est qu'il est quasi dépourvu de dialogue puisqu'il se concentre sur les animaux. Ce qui en fait un des rares films français avec des bons acteurs et de bons dialogues.
Ce qui n'est pas faux.
Puisque quasiment inexistant.
Ce qui n'est pas faux. Moi, j'adore le montage du film, je le trouve vraiment parfait.
Ouais.
Moi, je le trouve intemporel.
C'est touchant. Que moi, j'ai vu à l'école pour la première fois, en primaire, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de le revoir. Et c'était l'occasion.
Et c'est ce que je te dis, en fait, c'est un film pédagogique.
Ouais.
C'est vraiment très intéressant, il y a plein de choses à voir.
Mm-hmm.
La manière dont vivent les ours... dans leur milieu naturel.
Prendre des champignons et...
Ouais,
par contre, celle-là, je l'avais oublié, la perche aux champis. Celle-là, cette scène, elle a pas fait le même effet à 6 ans qu'à l'heure actuelle.
Non, c'est vrai, j'avais pas compris à l'époque. oui, c'est vrai, c'est pas pareil. On voit l'expérience.
Ah, exactement, belle expérience.
même les cauchemars et tout, ils sont cool. Je trouve,
oui, le fait d'essayer d'interpréter les rêves d'un ourson.
Oui, qui a peur des grenouilles.
Ouais, c'est très, ah ouais, très sympa, c'est très sympa. Et ben, tu reviens à ce que peut, et pareil, penser à un jeune enfant ou quoi que ce soit dans la journée qu'il vient de vivre. C'est exactement la même chose. Donc, t'as un vrai rapport entre l'animal et l'être humain. Où il interprète les rêves d'un animal, mais qui peuvent être les rêves d'un enfant, d'un jeune enfant, c'est la même chose.
Et il est mignon quand même ce film, le petit ourson et tout.
C'est superbe. Ouais, ouais, voilà. Mais à montrer à tous les enfants de 5-6 ans, ouais, regarder l'ours plutôt que de regarder tout et n'importe quoi.
On est d'accord.
Oui.
Et du coup, je vous propose de passer maintenant à la musique.
Ouais, après, est-ce qu'on pourrait juste revenir un petit peu sur Bart quand même ?
Ah, vas-y, pardon, ouais.
Ah, Bart, c'est quand même un ours hyper connu dans le milieu du show business. Il a fait je sais pas combien de films et il est d'ailleurs décédé il y a pas très longtemps. Ouais. Et ils lui ont fait un hommage quand même assez spectaculaire pour un animal. Voilà, on peut véritablement considérer cet ours
comme un acteur.
Parce que des ours, pour revenir aux animaux qui tournent, faut se dire que c'est pas non plus des centaines d'ours qui sont élevés, dis-moi. C'est assez rare, quoi,
anecdotique,
en soi.
Anecdotique. Ouais. Là, la frontière entre l'animal et l'homme, bah, elle n'existe plus.
C'est souvent les mêmes animaux que tu retrouves dans d'autres films.
Ouais. Elle n'existe plus. Puisque Bart est un comédien à part entière.
Ouais, très bon jeu d'acteur pour les ours.
Oui.
Moi, les humains aussi, mais bon, très petit rôle.
Oh, Check Icarion, on le voit quand même pas mal.
Donc, pour la musique, à la composition, il s'agit de Philippe Sard, donc qui a fait Le Guignolo, Flic ou Voyou, Deux Hommes dans la Ville. Après avoir hésité entre L'Amitié et La Meute pour les musiques, j'ai choisi finalement la musique du générique de fin, qui est la plus représentative du film. Mmh. Et de retour dans Ciné Primitif, c'était la musique de L'Ours de Philippe Sard, le premier film sur notre thème animaux.
Et on va enchaîner avec un grand classique, Meet the Feebles, réalisé par Peter Jackson. C'est son deuxième film, et quel chef-d'œuvre.
Ouais, sorti en 1989, l'année de ma naissance.
C'est vrai. Alors que ce film, il est réalisé par Peter Jackson, écrit par Peter Jackson, produit par Peter Jackson.
Alors, Dahu, excuse-moi de te couper, ouais. Mais peux-tu nous dire ce que Peter Jackson a fait d'autre depuis Meet the Feebles?
Même avant, il a fait Branded, qui est pour moi la masterclass de...
Branded,
qui est ma Madeleine de Proust.
Je pense qu'on le présentera à un autre moment.
Et Bad Taste, qui est un chef-d'œuvre, mais c'était avant.
Mais
et
Seigneur des Anneaux, après.
Bien sûr.
Ah, merci.
La trilogie. Et le Hobbit, mais bon.
Ah, Peter Jackson.
Le film dure 1h30, il a coûté 750 000 dollars, il en a rapporté 80 000 dollars, donc c'est un gros échec.
Ah, ça va, hein.
Un vide total. Le principal, c'est qu'ils se sont éclatés vers ce film entre potes, fabriquer eux-mêmes leurs marionnettes et rigoler.
Ah oui, c'est un film de marionnettes, quoi.
C'est un film de marionnettes, effectivement, pour préciser. Dans un théâtre de variété peu reluisant, les Feebles, une troupe d'animaux marionnettes, tente de faire tourner son spectacle. Derrière les paillettes et les numéros musicaux, les coulisses sont un véritable chaos. Jalousie, drogue, trahison, ambition ratée et relations toxiques gangrènent le groupe. On suit notamment Robert, un jeune hérisson naïf, qui rejoint le show et découvre rapidement l'envers du décor. Très loin de l'image joyeuse du spectacle. Entre une diva instable, un hippopotame génial, ouais. Un réalisateur tyrannique et des artistes complètement déjantés, tout bascule progressivement vers une spirale de plus en plus sombre et violente. Complètement.
C'est complètement dingue. Dingue trash.
Ah bah là, c'est dans sa trilogie du gore, vraiment. Quoi.
Ouais, c'est
sa trilogie du gore, entre guillemets, mais c'est la suite de... Du moins, la suite, c'est juste un post-Bad Taste, c'est avant Branded.
Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la richesse des personnages.
Ouais.
Ça peut être des marionnettes, ils ont une richesse qui fait qu'à un moment donné, ils sont véritablement personnifiés. C'est incroyable.
Il y a des séquences tellement occultes comme le Vietnam en mode voyage en bout de l'enfer.
Le crocodile, c'est le meilleur des personnages.
C'est vrai que je crois qu'on n'a pas précisé, mais chaque marionnette est un animal et ça correspond un peu à son personnage, à son trait de caractère. Ouais. Par exemple, le journaliste, c'est une mouche à merde. Ouais. Le journaliste people, quoi.
Mais la référence à Voyage au bout de l'enfer, où je sais pas si c'est Robert De Niro ou Christopher Walken, mais c'est tellement énorme. J'adore. En plus, c'est moi qui suis un grand fan de ce film. Je n'ai fait que adorer.
C'est totalement lâche ce crocodile en plus.
Mais ça dénonce en plus les dessous du showbiz et tout, c'est ça que j'aime bien.
Ah, puis là, ça va, c'est du moins. Quand ça part en couille, c'est le moment où ils savent qu'ils vont être produits à la télé, du moins. On sait déjà que ça va partir, mais quand il y a le metteur en scène Sébastien qui arrive et qui dit on va être produit à la télé, là tout se déclenche. C'est le numéro du lanceur de couteau, l'éléphant qui monte sur scène alors qu'il a la drouille.
Non, c'est magique. Imaginez tous les problèmes qu'il puisse y avoir dans une troupe, effectivement. D'acteurs,
problème de grog, problème d'ego, problème de corruption,
tout. Vous retrouvez tout là-dedans dans un film que vous pouvez regarder gratuitement sur YouTube.
C'est magnifique.
On est presque à deux doigts de la comédie musicale aussi. Il y a énormément de musique qui sont.
Je voulais faire un thème comédie musicale. Bobo n'a pas voulu. Il a mis son droit de veto.
Après cool. Moi, en tant que noobie, là, je vous assure que c'est la première fois que je vois Meet the Feebles. Et c'était.
T'as kiffé ou quoi?
Alors après, j'avais déjà vu des extraits en fait avec le hérisson. Robert. Mais dans quoi? Dans des clips, je sais pas. Enfin, je sais pas. Et là, le fait de tomber sur ce film là. Mais c'est incroyable. En plus, j'étais dans un état un peu fatigué de maladie et j'ai rigolé.
Il y a tellement de trucs drôles, de séquences qui sont inoubliables.
J'ai vraiment adoré.
Conseillé par toute l'équipe de Ciné Primitif.
Ça, c'est du underground bien dégueu qui fait bien rigoler.
Avoir à quoi 10 ans, pas avant.
Ouais.
Oh, un peu plus quand même.
Un peu plus, 12.
Ouais, 12, ouais. Pour bien tout saisir.
Ouais, 16.
Ouais. Ça me fera toujours rire, c'est quand même qu'il a du mal. Seigneur des Anneaux est arrivé après tous ces films-là, quoi, la carte de visite pour faire.
C'est vrai, c'est ça. C'est
vrai, c'est tous les temps. Moi, je vous présente mes films.
Voilà.
Ok.
C'est vrai que ça, c'est fou qu'il lui ait fait confiance alors que le mec, il a fait Baptiste, Brendel et The Feebles.
Ouais, mais parce que c'est une machine. Fou, quoi. Parce que les mecs, ils ont cru en lui et lui, il croyait en lui.
Bah, ils ont eu raison, parce que Seigneur des Anneaux, chez Dave.
Et il a fait ce que jamais personne n'a fait auparavant.
C'est vrai.
Mais 16 ans, parce que déjà,
ouais, non, 16 ans.
Le rôle du rat...
C'est des marionnettes, mais c'est pas pour les enfants.
Jamais je l'ai vu à 16 ans, aussi.
Ouais, le rôle du
oui,
rat...
Oui, mais toi, t'as vu des films beaucoup trop jeunes.
Mais le cacheton en champagne et tout, avec les films... Ah, il est chaud, le rat. Oui. En plus, il est tellement bien fait.
Il y a un peu de sadomasochisme par moi que marionnette.
Non, à peine.
Ah, il y a des trucs limite. Je vous propose de passer à la musique.
À la musique.
Alors, présente-nous cette musique, David.
La musique, c'est celle de Sébastien, le metteur en scène et directeur artistique de la troupe, qui n'a pas le droit de la jouer pendant tout son spectacle, sauf que... À la fin du film, tout part en sucette, tous les spectacles sont échoués, donc il prend la décision de monter sur scène pour faire sa performance et chanter Sodomie.
Ouais, une ode à la sodomie.
Mmh, exactement.
Voilà pourquoi pas interdit au moins de 16 ans.
Ouais, ça va. Allez, go.
That I enjoy the act of sodomy. You might call the wrath of God on me, but if you tried it, then you might agree that you enjoy the act of sodomy. Don't worry if you feel ashamed, it's been around for years. Thousands more than can be named are interested in reels. Don't worry about hell, no harm will come to your soul. We're not all Pentecostal, but everybody's got an asshole. Let me tell you about sodomy. You must think it very odd of me, but I enjoy the act of sodomy. You might call the wrath of God on me, but if you tried it, then you might agree that you enjoy the act of sodomy. It might just improve your sex, it's a hard act to follow. A fact that fundamentalists find difficult to swallow. So join me as I sing of an activity that's fun. Open up your ring and try it front to bum 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 bum. Sodomy, you must think it very odd of me. That I enjoy the act of sodomy. You might call the wrath of God on me, but if you tried it, then you might agree that you enjoy the act of sodomy.
Et de retour dans Ciné Primitif, c'était la musique Sodomy de Meet the Feebles présentée par Dahu. J'espère que les anglophones ont kiffé.
Ah, je ne peux pas faire tout titre à la radio, désolé.
Ouais. Sinon, bah, allez voir la version sous-titrée sur YouTube. Et Bobo, on passe au prochain film.
Oui, Pet, que vous pouvez regarder sur, sur Amazon. Voilà, sans faire de pub. Sorti en 2016 de Carles Torrens.
Qu'est-ce qu'il a fait, Carles Torrens? T'as rien noté?
Franchement... Je crois pas qu'il...
À part ce chef-d'œuvre ultime que tu viens de nous présenter.
Et je pense pas qu'il ait fait une grande carrière, Carles.
Ah, il est en prison, ils l'ont mis en prison, pas de film.
Non, rien que je n'ai retenu d'intéressant.
Okay.
Par contre, à la distribution, on retrouve Dominique Monaghan, qui fait le lien d'ailleurs avec Meet the Feebles.
Bien joué, Seigneur des Anneaux.
Et voilà, moi je fais les liens, moi, entre les films, messieurs.
C'est moi qui ai choisi l'ordre.
Qui joue. qui joue Mary, effectivement, dans Le Seigneur des Anneaux, qu'on peut retrouver dans Lost ou même X-Men Origins. Vous savez, celui avec l'ampoule qui maîtrise l'électricité. Bref.
Okay.
On retrouve Kensia Solo, qu'on retrouve dans Black Swan. Pas grand chose d'autre. Son problème, c'est qu'elle est canadienne. Ils ont trop de sang français, les Canadiens. Janet McCurdy, qu'on retrouve dans Malcolm. C'est Penelope, si vous voyez un peu la série Malcolm. Voilà pour la distribution. Sur le synopsis, 7, donc un trentenaire maladroit et inquiétant, tente de séduire Holly, une serveuse, mais échoue lamentablement. De plus en plus obsédé par la jeune fille, 7 kidnappe Holly et l'enferme dans une cage au refuge animalier où il travaille. Je mettrai une précision avant que vous commenciez à dire
du mal.
Du bien de ce film. Moi, j'ai aimé dans ce film-là le début. Le début, je m'explique, parce que il y a une présentation du personnage principal, comment il est, où il travaille dans cette animalerie, etc. Où il va devoir brûler un chien et tout, parce qu'ils en veulent plus, machin. Et la fin.
Il espère pas une animalerie.
Et je trouve... Ouais, voilà.
Non, il espère. Il brûle pas des animaux dans les animaleries. Hein. Si.
Non, ce que je voulais dire, c'est que ce film, il est intéressant pour comprendre, si vous voulez, qu'il n'y a pas de frontières. Et ça, c'était important. Et vrai, là, je suis sérieux dans ce que je dis. C'est qu'il n'y a pas de frontières entre l'animal et l'homme.
Attends.
L'homme est un animal. L'homme fait partie du monde animal et aujourd'hui, il n'y a aucune définition qui permet de différencier l'homme de l'animal.
Dans ce film, il t'a expliqué ça, toi ?
Non, je me sers de ce film pour te donner cette explication.
Ah, ok. Parce que moi, j'ai pas compris ça dans le film. Hein.
Non, le film, il sert à rien.
Ok,
à part
merci.
Le début, là, ça me va, ce film, il me permet juste de m'exprimer.
Ok. Exprime-toi, Bobo.
Alors, je disais juste que ce film permet d'exprimer l'opinion et c'est pas qu'une opinion. C'est une réalité où l'homme et l'animal, en fait, il n'y a aucune frontière entre l'homme et l'animal.
Ouais.
C'est l'homme qui se définit supérieur à l'animal pour se différencier de lui. Mais l'homme fait partie complètement de l'animal. Bref. Et dans
comme
ce
dans
film,
l'ours, comme dans...
Exactement.
Ah ouais, mais là, si tu voulais, pour ton propos, c'était le film le moins... Le moins bien joué,
non, même Meet the Feebles, c'est mieux pour ça. Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est la fin. Après, on peut pas en parler véritablement, mais il y a ce truc où justement, lui, peu importe la condition dans laquelle il va être, ce qu'il souhaite, c'est l'amour de cette femme. Et
ça, c'est amené, du moins, je trouve qu'il n'y a pas de surprise, vu que c'est amené...
Ouais, non mais ça, on s'en fiche en fait de la surprise. Ouais. C'est un film, il y a un début et une fin, tout ce qu'il y a au milieu.
C'est mieux qu'il y a un début.
Non, non,
enfin,
si, moi, j'ai eu un gros problème, c'est qu'au départ, je me suis dit, oh non, mais le film, je vois exactement où il veut en venir. Et après, je me suis dit, non, c'est pire que ça, le film, il va essayer de me surprendre avec un truc qui a aucun sens.
Et, non.
Et c'est ce qu'il a fait.
Ah ouais bah, ah bah non, moi, il m'a pas surpris.
Non, mais il m'a pas surpris, justement, avec un truc qui a aucun sens.
Ah,
genre,
ah non, je m'attendais à ça, moi. Non, mais comme tu dis, le point positif du film, c'est qu'il ait un début, une fin. Je trouve qu'il est pas trop long aussi.
Ouais, non mais ça.
Ouais. Ça c'est cool. Pour ce genre de film, 1h30, c'est largement suffisant.
C'est vrai que c'est des points positifs. Ouais, il y a un début, une fin, il est pas trop long.
Mais c'est assez. La fin est assez traumatique quand même. La fin est assez traumatique. Non, il y a ce.
Moi je comprends pourquoi il a pas percé plus loin Dominic Monaghan.
Ça va, hein, je trouve.
Tu trouves que c'est le meilleur acteur du film?
Non, bah, ça passe, enfin, de toute façon il doit jouer un mec sans expression, sans... Du coup il fait bien. Non, ça... enfin, en vrai, de toute façon il n'y a rien à sauver dans ce film, je suis désolé.
Oui, peut-être l'histoire va pas et du coup c'est pour ça qu'il joue mal, mais...
Ouais. Non, mais la seule chose à retenir, c'est qu'effectivement, être animal ou être homme, ça reste une condition sociale. Point barre. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des êtres humains qui sont considérés pire que des animaux, et des animaux qui sont considérés comme des êtres humains à part entière. Être animal, c'est une condition sociale. Et vous pouvez aller en Inde, vous avez des êtres humains qui sont des animaux, qui sont considérés comme des animaux.
Super, Bobo, mais la prochaine fois, je propose que tu m'imposes pas un film d'une heure et demie là-dessus.
T'as fait du bien, celui-là.
Non, non.
Dire que tu mets un film animal, animaux.
Sans animaux.
Animaux, t'en as. Si.
Bah, le premier,
non, il n'y a pas d'animaux.
5 minutes.
Oui, mais après, c'est l'être humain qui se transforme en animal.
C'est vrai que
oui,
là, c'est compris ce que tu veux dire, film, mais d'accord. À la limite. Le plus hors sujet. Je vois pas comment tu peux sauver ce film. Mais je te propose
qu'on passe en... Je trouve que t'as mis une super phrase. En dehors de ça, il s'agit pour moi d'un film très dur à regarder. Surtout pour la deuxième fois.
Ah non, ne regardez pas ce film deux fois.
Une, ça suffit.
Ouais. Ah ouais, ouais. Une, ça suffit.
Ça suffit. Un film à ne voir qu'une seule fois.
Toi, tu le donnes.
Je vous propose de passer à la musique. Alors moi, j'ai pas le souvenir d'une bande son exceptionnelle, mais vas-y, surprends-nous.
Oui, bande son. Ouais.
Pour revenir à la musique, si moi j'ai un souvenir justement. C'est qu'il y a une musique à place des percus et les aboiements de chien. Et là, je me suis dit que c'était ça allait être beaucoup trop loin le film.
Oh la vache!
Bah, du coup, tu te
rappelles. Oui, la musique originale du film, le soundtrack sur le main title.
Bah, qui fait bien?
Qui fait très très bien.
Et on se retrouve dans Ciné Primitif, toujours sur le thème animaux et Bobo, c'était...
Oui, la bande originale du film Pet.
Un film à ne pas voir, c'est surtout pas deux fois.
Si, à voir une fois.
Le prochain film, d'ailleurs...
Ouais, Amour Chienne, sorti en 2000. C'est un film d'Alejandro Iñárritu, c'est son premier film, qui a lancé le début de sa grande carrière.
Il a fait quoi d'autre?
21 grammes, Babel, entre autres. Qui sont dans la même trilogie entre guillemets sur la mort. Il dure 2h30, c'est un film mexicain, lui-même est mexicain. Si vous avez déjà vu ses autres films, ça marche sur le même concept avec plusieurs chapitres et on suit plusieurs personnages qui vont avoir un
point de ralliement.
Ouais, voilà. Ils vont avoir un incident, un événement qui va les rassembler alors qu'ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Alors, le synopsis, c'est un violent accident de voiture à Mexico relie le destin de trois personnages dont les vies basculent, révélant des histoires d'amour brutal, de violence et de survie, où les chiens deviennent le miroir des instincts humains. Il y a quand même beaucoup d'animaux, les chiens sont omniprésents, on en voit...
Et des combats de chiens, d'ailleurs, dégueulasses.
Ouais. Il n'y a que ça. En fait, les seuls animaux que tu vois, ce sont des chiens.
C'est ça. Et vous en avez pensé quoi du film?
J'ai adoré.
Vous l'aviez pas vu, vous?
Non, je l'ai pas vu. J'ai adoré
surtout.
Pareil,
je l'ai découvert.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que tu l'as dit, c'est un film en trois parties. Et la première partie, tu suis une classe sociale modeste. Mm-hmm. Dans la deuxième partie, c'est des richoux, quoi.
Pas vraiment dans la deuxième partie, tu les vois. Dans la première partie, vraiment le personnage principal, effectivement, c'est la famille modeste, mais tu vois quand même les autres protagonistes dans la première partie.
Et dans la deuxième partie, tu vas suivre plus les riches, voilà, des gens un peu privilégiés. Et la troisième partie, c'est un marginal que tu vas suivre.
Ouais, exactement.
Donc, du coup, t'as trois classes sociales.
Mais l'accident va bouleverser complètement les vies de.
Ouais, mais sans qu'ils se rencontrent.
Ah non, bien sûr que non.
En fait, c'est ça ouais. qui est assez fort. Et tout tourne autour du chien Shibo.
Ouais.
Shibo. Un Rottweiler.
Il est cool, le chien. En plus, il doit le...
Il est pas super cool, hein. Mais c'est pas de sa faute, c'est la faute des mecs.
Gentil, juste il défonce tous les autres chiens.
Il mange les chiens.
Ouais. Voilà. Mais les chiens qui sont drogués pour faire des combats aussi.
Mais après, moi, franchement, j'ai trouvé très 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 bon. Il y a quelques longueurs qui me dérangent.
Ouais.
Mais voilà, je pense que
après,
ça...
Après, c'est son premier film aussi. Ouais. Et je pense que du coup, pour le coup, il a vraiment eu... il a fait un film où il y avait cette durée. Il y a eu le Final Cut Direct. Il n'y a pas eu d'autres... C'est pas un film américain en fait.
Oui, bien sûr.
C'est un film mexicain, il y a vraiment eu le film qu'il voulait.
Il y a pas. Ah ouais.
Il y a quelques longueurs voilà, qui me dérangent un peu. Mais en dehors de ça, non, c'est un très très bon film. Et,
Et puis t'es dans l'instant en fait, vu que c'est tout en caméra épaule, t'es vraiment dans le.
Ouais, et t'es surtout à Mexico, une ville où il peut se passer
violence.
N'importe quoi.
Ouais, beaucoup de violence.
Il se passe tout et n'importe quoi. Et n'importe qui peut faire n'importe quoi pour essayer de s'en sortir.
Et des destins qui basculent. Et surtout, ça tourne beaucoup autour de l'amour, quoi. Un amour impossible.
Ouais, c'est ça.
Un amour fantasmé et un amour disparu, quoi. C'est vraiment les trois parties.
Perdu, pas disparu.
Mais la réalisation est parfaite pour bien amener les personnages, en fait. Sans avoir énormément de personnages, il y a une construction qui est vraiment... vraiment c'est cool. Vrai. Tu sais pas où ça t'amène, là, pour le coup.
C'est vrai, j'avoue. Et
tu sais où ça t'amène, parce que vu que tu sais l'accident, tout ça... Mais tu sais pas à quel point ça impacte...
Ouais, ça m'a un petit peu dérangé.
De quoi ? De savoir...
Ouais. En fait, je la trouve un petit peu inutile, cette scène au départ de l'accident.
Ah ouais, mais tu l'as vu dans Instagram et Babel ? C'est deux autres films qu'ils avaient ?
Non.
Parce, en fait, c'est un peu son concept de film, tu vois, il part
sur
un fait. Ouais. Et en fait, après, tu vois en fait tout ce que l'impact que ça a, et après...
Parce que tu as sur l'accident, tu n'as que ce premier personnage avec ce premier chapitre.
Non.
Ah si, sur la première scène de l'accident.
Ouais, c'est la première scène.
La scène de l'accident, tu n'as que les premiers personnages du premier chapitre.
Non.
Tu n'as pas les personnages du 2 et 3.
Mais dans le premier chapitre, tu as déjà les personnages du 2 et 3.
Tu les vois.
C'est juste, tu vois l'accident quand il y a le tonneau, tu la vois quand il y a des encastres et tout. Le mannequin.
Oui, d'accord.
Du coup, en fait, c'est juste qu'ils appuient plus. T'es obligé, parce que si tu t'as l'intro, ça devient une série, mais t'as vraiment un personnage par chapitre central, mais t'as quand même les autres. Genre le marginal avec
le
ses
vieux,
chiens.
Ouais, qu'on revoit tout le temps.
Tu le vois tout le temps, mais tu sais que c'est lui qui a la clé de voûte du scénario. Quoi,
ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai adoré dans ce film, c'est le fait de... Les personnages sont pas, il y a pas de jugement sur les personnages en fait, les protagonistes en tout cas, peu importe leur classe sociale et etc. Tu t'attaches à eux, ils ont toutes leurs raisons de faire ce qu'ils font et de devenir.
Oui, les acteurs sont
d'évoluer.
Bons,
non mais t'es quasi sur un documentaire.
Ouais.
T'es quasi sur un documentaire de comment les gens vivent à Mexico.
Et par contre, la critique que je pourrais faire, c'est les inégalités entre les trois parties. Et je veux dire, la première, elle m'a tellement prise qu'après la deuxième, j'étais un peu...
C'est ça. Alors par contre, comme je dis, c'est son premier film. Et ça se peaufine après avec les deux autres de cette trilogie-là. Si vous les avez pas vus, je vous les conseille vraiment.
21 grammes, j'ai vu. Hein.
21 grammes et Babel, qui est vraiment cool avec Brad
Pitt. 21 grammes, c'est avec...
Sean Penn.
Sean Penn.
Voilà, un film vraiment à regarder, qui a reçu énormément de prix, qui a été rentable, contrairement à Midi Fibers. Et qui a propulsé Gonzalo Inarritu, Alejandro González Iñárritu au statut de gros réalisateur.
Est-ce que tu peux me donner le nom du titre original, s'il te plaît, en espagnol ?
Ah, si, c'est Amores Perros. Voilà, donc moi je vous le conseille vertement, c'est pas pour les enfants, mais pour des adultes, des adolescents, c'est bien.
Adultes. Amour chien, j'avoue qu'il est très dur, moi rien que pour les combats chiens. J'ai un problème dans les films, c'est voir les animaux s'entretuer pour le bien des humains.
Je suis d'accord avec toi, quand je l'ai vu la première fois, ce film-là.
J'ai une question, est-ce qu'il y a des chiens qui sont morts sur ce tournage?
Non, il y a eu 30 chiens utilisés, mais il n'y a aucun chien mort. Non, ils sont maquillés, c'est tout.
Bien.
C'est des chiens dressés.
Rien que le bruit.
Ouais, et puis même les cadavres de chiens qui ressortent des combats dans les barres de sang et tout.
J'ai moins de pitié pour les gens qui meurent autour et qui exploitent ces
pas animaux. Tant de morts non plus, mais...
D'où peu importe le besoin.
Non mais d'où, voilà, je te dis, cette frontière entre homme et animal, en fait, qui n'existe pas.
Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métaphores aussi dans ce film, justement.
Ouais, c'est le but. De...
C'est une condition sociale. Animal est une vraie condition sociale.
Ouais. C'est le but de vous faire parler sur ce film.
Tu peux être, entre guillemets, un être humain, mais au final, être considéré comme un animal. Ou être un animal et être considéré l'égal de l'homme.
Moi, je vous propose de passer à la musique.
Ouais, bah, la bande-son est pas mal du film. C'est ouais. Le compositeur de la plupart de ses films, mais il y a aussi des morceaux de variété mexicain que je n'ai pas choisi. Le morceau que j'ai choisi, c'est The Hollies, c'est Long Cool Woman.
Retour dans Ciné Primitif. D'AU, c'était...
C'était la bande-son d'Amour Chienne, que je vous conseille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ouais.
Bobo, à
oui,
toi.
Oui, on passe sur Instinct, sorti en 99, réalisé par John Turtlebold, qui a fait Rostar Rocket, Benjamin Gates. Bon, soyons clairs, Instinct est son meilleur film, quand même.
T'aimes pas Rasta Rocket?
Distribution, on a Anthony... Si, j'aime beaucoup Rasta Rocket. Mais je trouve Instinct quand même un cran au-dessus, notamment sur le sujet qu'il aborde et ce qu'on peut
c'est
en tirer.
C'est une bonne comédie, quoi.
Ouais, voilà. Là, Instinct, ça parle de choses un peu plus sérieuses et très intéressantes. Où, à la distribution, on a Anthony Hopkins, donc, qu'on peut voir dans le Silence des Agneaux, quand même. Hannibal Lecter, hein, la suite. C'est le visage de ce... de ce tueur, hein, quand même. Faut pas l'oublier, Anthony Hopkins, voilà. Qui a fait une carrière cinématographique, quand même, depuis les années 60. C'est quelque chose d'énorme. Mmh. Ça reste un acteur au-dessus des autres. On a d'autres acteurs dans le second rôle comme Cuba Gooding Jr, Donald Sutherland, George Dunza. Voilà. Le synopsis, Ethan Powell, brillant primatologue, a vécu dans la jungle rwandaise une expérience limite qu'aucun être civilisé n'avait jamais connue. De ce mystérieux voyage initiatique conclu dans un bain de sang, Powell est revenu brisé, hagard, muré dans un silence obstiné, accusé d'avoir tué 3 gardes forestiers. L'homme perdu, qu'on appelle, a été transféré à la prison d'Harmony Bay. Theo Kolder, psychiatre à l'université de Miami, se voit confier l'expertise de l'état mental de Powell. Compétent et ambitieux, Theo voit l'occasion de se faire un nom et de devenir célèbre. Encore une fois, ce film, il me permet d'évoquer cette frontière entre animal et homme qui n'existe pas. Et cet être humain, le primatologue, qui a fait de très mauvaises choses, hein, il va, notamment dans sa jeunesse, il va capturer un gorille qu'il va emmener au zoo, on le verra un peu plus tard. Voilà, et puis il va être à l'origine, au final, du drame qui va se passer dans la jungle, ça va être lui la cause. Mais il va véritablement intégrer ce groupe de gorilles. Il va faire parmi de ces gorilles. Et là, il n'y a plus aucune frontière entre homme et animal. Et c'est ça que j'aime exprimer.
Alors moi, je trouve ça très beau, mais pour moi, ça reste un Disney, tu vois. C'est genre, t'as la nature qui est gentille, etc. Enfin, tous ceux qui sont proches de la nature sont les gentils. Et la civilisation qui est barbare, qui est agressive. Et je trouve pas ça si subtil que ça, quand je regarde le film. Les discussions entre les deux protagonistes, c'est pas si subtil.
Alors si, franchement...
Il y a des moments, oui, mais la plupart du temps, c'est quand même...
Le moment où il lui dit, là, qu'est-ce que je t'ai pris ? C'est quand il le tient, là, qu'est-ce que je t'ai pris ? Il me dit, ma liberté, non. Et ça, ce moment, il est magique.
Ok.
Ce moment, il est magique, en termes de psychologie. Mais... ce film met le doigt sur une chose, et c'est pour ça que je l'ai pris, met le doigt sur une seule chose, c'est la domination. Et cette scène où il est tout seul dans sa cellule à faire une carte du monde, etc., à retracer le voyage de l'être humain sorti d'Afrique, etc., c'est la domination. Aujourd'hui, l'être humain, c'est l'espèce dominante. Et si on veut rétablir, entre guillemets, une sorte d'équilibre, etc., l'être humain est obligé d'abandonner cette domination. Et aujourd'hui, tout simplement, on est l'espèce dominante. On est des animaux dominants.
Ouais, mais tu vois, de son point de vue, je trouve que c'est un peu idéalisé, tu vois. Genre, il va dans la jungle, il est pote avec des gorilles.
Et alors ça, par contre, ça c'est fictif. Mais par contre, il y a véritablement des primatologues, et surtout une femme, je ne sais plus le nom.
Jen
qui a véritablement réalisé cette performance.
Oui, c'est possible.
Voilà. Après, effectivement, c'est enjolivé par Disney, etc. Ouais. Il y a des scènes qui n'ont pas lieu d'être.
C'est 90, en fait. Tu restes dans le moule.
Il y a des scènes qui n'ont pas lieu d'être, genre avec la carte de l'as de carreau, là. En fait, ça n'a rien à faire, là. Je
pense que c'est là que c'est hyper, parce que tu penses... Tu vois, t'as déjà vu Vol au-dessus d'un nid de coucou ?
Bah, bien sûr.
Moi, ça m'a fait penser à ça, mais au moins bien.
C'est vrai.
Non, mais voilà.
Ouais, c'est vrai.
Parce que, en fait, lui, il est pas fou. Mais non. Il se retrouve dans un univers avec que des fous. Et je trouve que Jack Nicholson avait meilleur...
Mais t'as pas, en fait...
Non, t'as pas le même pitch, bien sûr.
Voilà. Mais et c'est pour ça que je te dis...
Il y a des beaux cheveux longs, en tout cas.
Mais c'est pour ça que je te dis que en fait, ces scènes-là, avec l'as de carreau, cette sorte de domination, de contrôle, elle a rien à faire là, parce qu'elle ne représente pas véritablement le message que veut transmettre le film.
Par contre, Anthony Hopkins, toujours au top.
Non, c'est pas son meilleur film, mais oui.
Ah, je sais pas, moi, ce mec-là, il dégage un truc, je sais pas.
Il dégage un truc.
Il a pas besoin de faire grand-chose.
Bah, justement, c'est ça, je trouve, que s'il est pas très bien dirigé. Là, il pourrait jouer n'importe quel rôle, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Là, il est surpuissant. Il attrape n'importe qui.
Il fait bien le gorille.
Ah ouais. Là, il est doux argenté, tu vois.
Il va faire 1m60 dans la vraie vie, mais j'ai pas envie qu'il me frappe.
Là, il est monstrueux dedans. Il est franchement
pas mal.
Bon, c'est la deuxième ou troisième fois que je le voyais. Je crois que j'avais déjà vu il y a longtemps.
Ouais, voilà. Après, j'avais juste une petite annotation sur quand même l'animation des gorilles de Stan Winston. Quand même, qui a fait La Reine des Aliens, Predator, Terminator, et T-Rex et Raptor de Jurassic Park.
Monsieur années 80-90, effets spéciaux.
Ouais, c'est voilà, Stan Winston, quoi.
Mais déjà, le T-Rex de Jurassic Park, tu me dis ça, je me dis, ouais,
c'est un... Non, mais voilà, c'est pas n'importe qui.
T-1000 aussi dans Terminator qui
passe. Ah oui, ok, ouais.
Voilà,
ouais,
c'est pas n'importe qui s'occupe, parce que ce sont pas de vrais de gorilles, hein, bien évidemment.
Oui, bah,
ça se voit un peu, hein.
Contrairement à Zuskodiak.
Ouais.
Mais c'est quand même pas mal.
Je pense que au moins c'est de la fourrure et tout, c'est pas du CGI.
Ouais, non.
Puis au moins, excusez-moi de faire mon hippie, mais ils ont pas
dressé
des animaux. Voilà.
Ils ont pas embêté de rien.
C'est mieux.
John Turtleball, il parle de son scénario en étant fasciné sur la qualité littéraire, pardon, des questions qu'il pose sur l'homme et le monde actuel. Il pense que son film n'est pas seulement un bon divertissement, mais une initiation pour le spectateur à réfléchir sur les valeurs personnelles et motivations et les relations aux autres.
Okay.
Voilà, et encore une réflexion sur la domination de l'homme et qu'est-ce que doit faire l'homme de sa domination face au monde animal.
Jurassic Park avait posé la même question.
Oui, c'est vrai.
Ouais, tout à fait.
Il l'avait mieux fait. Il l'avait mieux fait.
Tout à fait.
Mais bon, c'est un bon film.
Personne n'a pris Jurassic Park, donc voilà. Après, je vous fais découvrir Instinct. Ça reste un film franchement sympa.
Sympa.
Ouais, non, franchement, je suis content de l'avoir vu pour ma part pour la première fois.
C'est très sympa.
C'est un film normal.
Je te propose de passer à la musique,
si tu veux bien, de Danny Elfman.
On connaît.
Ouais, bah oui, quand même. Hein. On vous laisse écouter les émissions précédentes. J'ai gardé le thème principal.
C'est parti.
Thank you.
Et de retour dans Ciné Primitif, Bobo.
Oui, c'était la BO de Danny Elfman qu'on vous invite à voir dans les émissions précédentes. Et tout de suite, Princesse Moquée, présentée par Nono.
Ah ouais, là je suis trop content. Parce que c'est un de mes films de Miyazaki que je préfère.
Moi, t'as présenté.
Le Voyage au Chihiro, ouais, Bobo, que t'avais présenté.
Ouais, mais c'est même pas mon préféré.
Ah ok, c'est ok.
Non, moi c'est mon voisin Totoro.
Ah ok, pas du tout.
Ah, mon voisin Totoro.
J'aime bien aussi.
Mais je vais vous présenter Princesse Mononoké quand même.
Ouais.
Sorti en 1997, réalisateur, comme on l'a dit, c'est Hayao Miyazaki. Également scénariste et coproducteur. Miyazaki est connu pour ses œuvres majeures comme Le Voyage de Chihiro, dont on vient de parler, Le Château Ambulant, Mon Voisin Totoro, que Bobo tu adores. Un film d'animation des studios Ghibli, mélangeant fantastique et préoccupation environnementale. Pour le synopsis, Ashitaka, jeune prince d'un village reculé, est maudit après avoir tué un sanglier démoniaque possédé par une force maléfique. Pour trouver un remède, il part vers l'ouest et découvre une guerre entre les humains du village des forges et les esprits de la forêt, notamment San, Princesse Mononoké. Entre conflit et alliance, il doit protéger l'équilibre entre homme et la nature. Et c'est l'enjeu du film, au fait, c'est une guerre entre la civilisation, entre les hommes et la nature, mais personne n'est méchant dans ce film. Il n'y a pas de...
Mais comme dans tous les Japonais, en fait, il y a toujours une part de méchanceté, mais de bonté. Dans la bonté, il y a toujours une part de méchanceté.
Mais du coup, ce qui est génial...
Et tout est brouillé, et en fait, nos connaissances occidentales entre le bien et le mal, ça n'existe pas là-bas.
Et bien du coup, je voudrais en revenir au film que tu as présenté juste avant, Instinct. Là, je trouve que c'est le même propos, mais de manière plus nuancée, si tu veux. Genre, il n'y a pas les méchants, la civilisation qui est horrible, parce que... En fait, t'as vraiment une opposition entre la nature et l'homme, mais les deux sont bons, ils font des choses pour des bonnes raisons.
Côté des hommes, ça dépend en fait, ça dépend le discours et le moment du film. Tu t'en rends compte.
Il n'y a pas de méchants, même les bêtes, enfin la nature, tu vois, Princesse Mononoké, des fois elle est agressive, après ça se comprend parce qu'elle défend.
Mais après, t'as toujours ce problème de domination, de l'homme qui veut dominer.
Ouais, mais regarde, genre par exemple, la dame là dont je ne retrouve plus le nom, elle protège les prostituées, des anciennes prostituées et les lépreux. Elle les aide à trouver une vie meilleure et pour ça, bah elle a besoin que...
Détruire la nature. Moi, pour moi, il y a quand même des méchants et des gentils.
Ah ouais.
Le gentil, c'est la nature, le méchant, c'est l'humain qui influe sur la nature, dans un sens. C'est la modification de l'état féodal, du moins. C'est dans le japonais féodal. Et en fait, ils ont un rapport à la nature proche, et c'est l'évolution de l'homme qui fait que la nature, pour elle, tu entends pas en conflit, mais...
Perd sa domination. La nature perd sa domination face à la domination de l'homme.
Mais elle la perd pas, là, vraiment, dans Princesse Mononoké, justement, la nature fait égard égal avec la domination de l'homme.
Oui, mais c'est le personnage qui est en conflit, justement, entre ces deux dominations.
Oui, c'est pour avoir une réflexion sur la nature, l'impact qu'a la société humaine avec l'expansion. Par exemple, tu récupères des lépreux, des prostituées et tout. Certes, il faut les nourrir, faut tout ça, il faut étendre aussi ton campement, donc travailler sur d'autres terres. Et elle produit des armes à feu pour détruire la nature. Elle le dit clairement, elle le dit, moi la nature elle m'empêche.
Parce que la nature rentre en guerre aussi avec elle dans le
film. C'est ça.
Et tout est question de domination. Qui va dominer ? Est-ce que c'est la nature, le monde animal, ou est-ce que c'est l'être humain ?
Je pense quand même que c'est plus une question de respect que de domination dans Princesse Mononoké.
Oui, mais t'as un rapport de domination après qui va créer, et dans le but de créer un équilibre.
Bah parce que, en fait, non, parce que là, pour moi, il y a un personnage principal qui est le respect incarné, en fait.
Ouais, voilà, c'est
Ashitaka. Et il prend le balai, elle vient des deux côtés.
Lui qui est nuancé et qui va prendre ni parti, ni pour l'un, ni pour l'autre, qui va être dans la nuance et qui va comprendre les deux points de vue. Et moi, j'adore.
Alors qu'il a été maudit par la nature quand même. Non, il sait qu'il est condamné par la nature.
Alors pas tout à fait, parce qu'il a été... Au fait, c'est parce que les hommes ont défoncé la nature qu'il a été maudit par la nature.
Mais lui, il n'avait rien à voir avec cette histoire-là.
C'est ça.
Donc c'est la nature qui l'a maudit, il pourrait en avoir contre la nature, mais lui, il cherche la source du mal de la nature.
C'est ça. Ouais, non, en vrai, je sais pas.
Et c'est pour ça que je trouve qu'il est plus dans le respect que dans la confrontation, en fait. Mais... Pour moi, t'as quand même plus de prise de parti pour la nature, parce que les humains veulent tuer Dieu de la nature, et la nature veut pas tuer le Dieu des humains.
Et ça, c'est complètement étranger à notre culture, où nous, on a toujours le bien d'un côté et le mal de l'autre, mmh. et le bien triomphe à chaque fois du mal.
Et moi j'aime bien la nuance.
Chez les Japonais, non.
Doit être japonais.
C'est pas comme ça. Mmh. C'est-à-dire que dans du bien, enfin voilà, le yin du yang et machin, et ouais. il est présent dans tous ces films-là. Ça, que tu sois, regardes le voyage de Chihiro, en fait, il n'y a pas de véritable.
Mais il se veut pas moralisateur, en fait.
Ouais, c'est ça.
Il
n'y a pas de fausse morale. Non, en fait, chaque personnage a du bien et du mauvais. Bref, tout est complexe.
Du Miyazaki, quoi.
Ouais, et c'est là que je te rejoins, c'est que c'est des dessins animés extrêmement riches, avec des interprétations et des divagations complètement extraordinaires.
C'est peut-être son plus violent.
C'est violent, par contre, ouais, je trouve.
Mais c'est le premier que j'ai vu, j'étais assez jeune.
Ça, tu peux le regarder à 5-6 ans, ça, c'est pas grave. S'il y en a un qui se fait couper les deux bras, qui se fait décapiter.
C'est comme dans Ken le Survivant. Par contre, Meet the Feebles, non, on parle de sodomie.
Non, mais là, je veux dire, les deux, ils combattent, il envoie une flèche, il lui coupe les deux bras.
Non, il est
ça arrive, une flèche, c'est dangereux.
En tout cas, on va passer à la musique, mais avant ça, on va se faire une petite roulette pour savoir le prochain thème.
Il reste beaucoup de thèmes.
Il en reste 3, il nous en reste un chacun.
Et tourne, la roulette, tourne. Wap, ça sera 8 clos.
8 clos, encore un de mes thèmes.
Pour
j'adore.
Le mois prochain.
Je vous propose qu'on se quitte avec la musique de Joe Hisashi, collaborateur régulier de Miyazaki, composant une bande originale mêlant orchestration classique et influence japonaise traditionnelle. Et la musique que j'ai choisie, c'est The Legend of Ashitaka.